Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Gilles Durand. Bienvenue dans Première fois, le podcast de 20 minutes consacré aux premières fois dans le sport. Le petit rhume que vous percevez dans ma voix ne m'empêchera pas de vous envoyer une nouvelle fois dans le passé. Aujourd'hui, direction l'Angleterre pour évoquer la tradition du Boxing Day, le lendemain de Noël. Une tradition qui perdure dans le football. Car contrairement à la plupart des championnats européens, la Ligue anglaise ne fait pas relâche durant les fêtes de fin d'année. Et le 26 décembre est un jour pas tout à fait comme les autres. Retour en arrière pour comprendre. Nous sommes en 1860, le 26 décembre justement. Il fait un froid de canard à Sheffield, dans le nord de l'Angleterre. Sur la pelouse du Sandygate Road, considéré aujourd'hui comme le plus vieux stade du monde, deux équipes de football s'affrontent. D'un côté Sheffield Football Club en rouge et blanc, de l'autre Hallam Football Club, un quartier de Sheffield qui joue en bleu. Selon les registres, il s'agit de la première rencontre officielle entre deux clubs de foot qui appliquent les mêmes règles codifiées 3 ans plus tôt, en 1857. Mais on est encore loin du football pratiqué de nos jours. Pour preuve, chaque équipe présente 16 joueurs sur la pelouse et les règles sont plutôt un mélange de football et de rugby qui n'ont pas encore créé leur propre fédération à l'époque. À travers les flocons de neige qui se sont invités à cet événement historique, Sheffield l'emporte 2-0. Mais pourquoi donc avoir choisi cette date du 26 décembre pour disputer la rencontre? Tout simplement parce que le football rugby, à l'époque, se pratique en hiver, période de relâche du cricket. Et aussi parce qu'il faut trouver des dates où personne ne travaille. Comme l'explique Martin Jones, historien du foot à l'université de Swansea, au Pays de Galles.
You know, if you think about kind of football in the kind of what historians sometimes call folk football.
Jadis, à l'époque d'un football populaire pratiqué à la campagne, les rencontres entre villages avaient lieu sans réelle règle établie. Mais selon le rituel, les rencontres se jouaient les jours de repos imposés par la religion, le Mardi Gras ou le jour de Noël par exemple. C'est donc une très vieille tradition de disputer ces matchs les jours fériés. Ainsi, lorsque le premier championnat anglais se met en place en 1888, des matchs sont naturellement programmés le 26 décembre, mais aussi le jour même de Noël. Il s'agissait souvent du derby entre clubs voisins, en match aller-retour qui se disputait sur 2 jours. Une tradition qui va perdurer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Mais le championnat anglais a fini par abandonner ses matchs de Noël en 1957. Martin Jones nous en fournit l'explication. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir pourquoi on joue le jour de Boxing Day, c'est de comprendre pourquoi le jour de Noël a été abandonné. En fait, Noël a pris de plus en plus d'importance dans notre culture. Les années 1950 marquent un tournant avec une influence grandissante de la classe ouvrière. Beaucoup de familles gagnaient mieux leur vie et dépensaient de plus en plus d'argent pour Noël, en cadeaux, en nourriture ou en boissons. Les festivités sont devenues plus familiales et les manifestations publiques ont commencé à disparaître, faute de public. Et les joueurs dans tout ça, me direz-vous? Les archives nous apprennent que beaucoup se plaignaient de ce rythme infernal, surtout pendant l'hiver. Les blessures étaient nombreuses. Pour calmer les esprits, les clubs proposaient alors des contrats spécifiques stipulant qu'il était possible de s'abstenir de jouer pour des raisons religieuses. Mais ce droit était rarement appliqué par les joueurs eux-mêmes. La pression était forte et il était bien difficile de trouver un club quand on refusait de jouer pour Boxing Day, le rendez-vous incontournable de la saison de football. Darren Tullett, bonjour.
Well, hello, Gilles.
L'aurait-il besoin de vous présenter? Vous êtes journaliste sur Bein Sport, la chaîne qui diffuse les coupes anglaises de football. La première question qu'on a envie de vous poser concernant le Boxing Day, c'est qu'est-ce que représente ce match pour un Anglais?
Eh bien, déjà, il y a un truc qu'il faut absolument que je dise, parce que ça m'énerve depuis des années ici en France. Le Boxing Day, mes amis, c'est le 26 décembre. Et puis c'est fini, le Boxing Day. Le Boxing Day, ce n'est pas toute la période de Noël. C'est le 26 décembre seulement. Le Boxing Day, ça s'appelle comme ça, pas parce qu'on faisait de la boxe à l'époque, mais parce que les riches donnaient une petite boîte au personnel le lendemain de Noël pour les remercier d'avoir justement si bien s'occuper de toutes les riches le jour de Noël. Donc le 26, on ouvrait les boxes, les boîtes avec les petits cadeaux pour le personnel. Donc c'était voilà l'origine du nom Boxing Day. Et le Boxing Day, vu qu'en Angleterre ou en Grande-Bretagne, le sport prend une place énorme, vous le savez, culturellement c'est très important le sport, eh bien le lendemain de Noël est un jour férié en Angleterre. Cette tradition est née il y a très 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 longtemps, d'abord avec des matchs de foot, de rugby entre les villages voisines. Et puis, une fois qu'on avait le sport organisé et professionnel, eh bien voilà que les championnats se sont mis à organiser des journées dingues avec tout le monde qui jouait le même jour. Et jusqu'à récemment, au même heure aussi, parce que avant que tous les matchs soient diffusés, et donc il fallait qu'on décale des matchs comme on fait aujourd'hui pour la télé, à l'époque, le 26 décembre, à 15h en Angleterre, tout le monde jouait, les quatre divisions professionnelles, coup d'envoi, 15 heures avec un maximum de gens au stade. Et c'est pareil pour le foot et pour le rugby. Pour la plupart, on mange ensemble le 25 midi. Et donc, après une journée enfermée en famille avec belle-maman et les enfants et les tantes et les oncles et tout ça, la tradition voulait que c'est les mamans qui disaient toujours le lendemain, bon, allez les mecs, vous sortez, allez au match, laissez-nous tranquilles s'il vous plaît. Parce que nous avons de quoi faire sans vous. Ça a un petit peu changé et tout le monde peut aller au match. Évidemment, aujourd'hui, mais je parle de ma jeunesse où j'étais toujours entouré par la famille, mes amis, qui allaient voir Brighton jouer. Et le stade était plein à craquer parce que, voilà, le Boxing Day était une tradition et les stades avaient les meilleures affluences du jour, ce jour-là, le 26.
Est-ce qu'il y a toujours la tradition du derby, en fait, ce jour-là?
Oui, et surtout pour une raison de logistique, parce que pour la plupart, souvent, il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus, il n'y a rien. Donc, pour se déplacer, c'est hyper compliqué. Et donc, quand on peut, au niveau de la Ligue, ils organisent des matchs entre les voisins. Donc, Brighton va jouer souvent contre Crystal Palace à l'époque, parce que c'était le club le plus proche géographiquement. Donc, des matchs entre clubs de la même ville. Pour cette raison-là, parce que voilà, il n'y avait pas de train. Donc, pour se déplacer, c'était compliqué. C'est toujours le cas, hein, Boxing Day en Angleterre. Très compliqué de se déplacer, donc il faut des cars loués par les supporters ou des bagnoles pour se déplacer, et nous on faisait du stop pour y aller parfois.
On dit aussi que ce sont des matchs complètement fous. Est-ce que vous avez en tête vous un match particulier qui vous a marqué?
J'étais pas encore né en 1963, mais c'est l'année...
Oui, il y a eu beaucoup de buts.
...de tous les records, avec, il me semble, une soixantaine de buts marqué ce jour-là, le Boxing Day de 63, parce qu'il y avait, je ne sais pas pour quelle raison, mais un maximum de buts. Je vais aller chercher ça pour vous. Devant moi, j'ai les résultats. Il y a un 5-1 pour Chelsea, 6-1, Burnley avait battu Manchester United, 6-1. Fulham avait marqué 10 buts contre Ipswich ce jour-là. Vous l'avez dit, 6 contre Stoke, un 8-2 pour Blackburn sur la pelouse de West Ham, et West Bromwich Albion 4, Tottenham 4, Wolverhampton 3, Aston Villa 3. C'était une journée de dingue ce Boxing Day de 63. Et parfois, il y a des jours comme ça, mais c'est aussi lié aux conditions de métier aussi, parce qu'en Angleterre, à l'époque, qu'il neigeait, qu'il pleuvait, on jouait quand même. Donc parfois, les conditions faisaient qu'il y avait des gags dans tous les sens, parce qu'avant d'avoir des bons terrains comme aujourd'hui, ça pouvait ressembler à rien. Et donc, tu avais toutes sortes de drôles de matchs. Mais aussi, avant qu'on ait vraiment dans l'ère professionnelle comme aujourd'hui, bien, il y a 30 ans encore, les mecs, beaucoup de joueurs de foot faisaient un peu la fête aussi, hein, le 25. Donc le 26, ils n'étaient pas tous très fraîches, quoi.
Ça amène à la question sur les blessures, puisqu'il y a eu quelques polémiques, hein, sur la blessure des joueurs, l'état de fraîcheur des équipes aussi anglaises au printemps. Est-ce que vous pensez qu'avec l'évolution du football, ce match du Boxing Day, cette tradition, elle pourrait disparaître?
Non, je pense que ça va pas disparaître parce qu'il y a un tel demande. Même aujourd'hui, avec toutes les chaînes qui diffusent les matchs, c'est peut-être encore plus fort cette demande-là, parce que la télé qui paye, a envie de diffuser des matchs non-stop. Il y a des matchs à toute heure pour tout le monde, pour qu'on puisse allumer la télé pendant cette période-là. Il y a toujours un match anglais, de toute façon, à un moment donné. Si c'est pas en Premier League, c'est en Championship. Et comme chez nous, sur Bein, tu vois, à un moment donné, là, ils ont organisé les demi-finales de la Coupe de la Ligue le 4 et 5 janvier. Et le week-end d'après, c'est la FA Cup, le troisième tour, où les clubs de Premier League rentrent en lice pour jouer contre les petits. Et, on a un programme complètement dingue. Demain, tu commences à vouloir dire aux Anglais, tiens, ce serait peut-être bien d'avoir une petite pause pendant l'hiver, comme ils font ailleurs, surtout en Bundesliga, par exemple. Bah, les Anglais, ils vont avoir du mal à accepter ça, parce que pour eux, cette tradition-là est très forte. Aller voir son équipe, peut-être, si tu y vas une seule fois dans l'année, ce sera pendant les fêtes de Noël, parce que justement, chez nous, il y a plus de jours fériés pendant cette période-là. On a envie de profiter, on a envie d'y aller avec papa, avec maman, avec toute la famille. Et donc, non, j'imagine pas fermer à Noël ou arrêter le Boxing Day. Si jamais il y a une pause, tu vois, pour l'hiver en Angleterre, j'imagine plutôt que ce serait début janvier, mais ils vont jamais arrêter de jouer le Boxing Day.
J'avais lu que Michel Platini avait refusé dans les années 80 d'aller jouer donc dans un club anglais parce que justement lui voulait pas jouer le lendemain de Noël parce que de tradition italienne Noël c'était sacré et que pas question de jouer le lendemain de Noël. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Il faut dire que tous les joueurs français et tous les joueurs étrangers, dans un premier temps, ils sont mystifiés par cette tradition. Ils arrivent, ils disent, comment ça, il y a l'entraînement le 24 déjà, parce que là, pour un français, le repas de Noël, c'est le 24 au soir. Quoi, il y a l'entraînement. Et puis le lendemain, le 25, on va peut-être s'entraîner aussi ou on va se déplacer parce qu'il y a un match le 26. Et c'est vrai qu'ils sont mystifiés. Ils ont du mal à comprendre. Dans un premier temps, ils trouvent ça marrant, c'est différent, ça fait partie de l'aventure. Et puis après, si on a une famille, ça commence à être compliqué. On est déjà, on n'est jamais là dans l'année. En plus, à Noël, on est rarement à la maison. C'est compliqué. Hein. Mais pour Platini, j'ai la chance de le côtoyer, Michel Platini, pendant un moment lorsqu'on était sur Canal Plus, il y a longtemps maintenant, et j'ai discuté avec lui par rapport au foot anglais. Alors, il faut dire, bon, déjà, Michel Platini aime énormément jouer sur le fibre, les Anglais, je ne veux pas les blairer et tout ça, mais toujours avec l'œil qui brille un peu. Donc, il me taquinait tout le temps. Et quand je lui dis, mais il n'y avait pas une histoire de transfert en Angleterre à un moment donné, c'était pas Arsenal ou Tottenham. J'ai l'impression, il me semble que c'était Tottenham qui voulait Platini à l'époque. Et Michel, en fait, il n'était pas très attiré par l'idée d'aller en Angleterre. Donc, il m'a dit que sa femme ne voulait pas aller non plus en Angleterre. Il ne parlait pas anglais. Ça ne les intéressait pas plus que ça. Et effectivement, dans la famille, c'était la tradition, c'était le sang italien. Et donc, c'était beaucoup plus attirant pour lui d'aller jouer en Italie. Et je peux comprendre, à cette époque-là aussi, il y avait très peu de Français en Angleterre, mais je pense que Michel Platini, il a pu s'appuyer sur une excuse comme ça, hein. Je ne voulais pas jouer le lendemain de Noël, c'est tout à fait possible, c'est le genre d'argument qui sortirait juste pour nous malmener, mais je pense qu'il y avait un peu plus que le Boxing Day qui ne voulait pas.
Mais écoutez, merci beaucoup pour toutes ces explications et ces anecdotes.
Et avec grand plaisir.
Et à bientôt. Première fois consacrée à la tradition du Boxing Day dans le football anglais, c'est fini. Ce rendez-vous sport est à écouter ou réécouter dans le podcast Minute Papillon, disponible gratuitement sur toutes les plateformes de podcast. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous gratuitement et à très bientôt pour un nouvel épisode sans le rhume.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.